Éminence, mes bien chers amis, mes bien chers frères, nous voici réunis aujourd'hui pour fêter l'Immaculée Conception, fête bien importante dans le calendrier liturgique de l'Église, parce qu'elle réunit en elle comme la synthèse de toutes les grandes vérités de notre foi. Dieu a voulu que pour notre rédemption, il s'incarna, et qu'il s'incarna dans le sein de la Vierge Marie. Évidemment, comment sa mère aurait-elle pu connaître l'ombre d'un péché? C'est pourquoi nous fêtons avec joie aujourd'hui l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Et mes bien chers amis, c'est une coutume maintenant dans la fraternité de renouveler les promesses en ce jour de l'Immaculée Conception, renouveler pour ceux qui l'ont déjà faite et prononcer ces engagements pour la première fois pour ceux qui sont entrés il y a un an, un peu plus d'un an, dans le séminaire. C'est à vous surtout, mes bien chers amis, qui allez prononcer pour la première fois vos engagements que je voudrais prononcer quelques mots d'encouragement et en même temps vous donner, autant qu'il est possible, en quelques instants, ce qu'est vraiment l'orientation de la fraternité dans laquelle vous allez vous engager. Je pense que au cours des mois qui ont passé maintenant, et particulièrement au cours de l'année de spiritualité, vos directeurs et professeurs vous ont bien expliqué les statuts de la fraternité dans laquelle vous allez vous engager, afin de vous donner exactement quelle est la fin et quels sont les moyens que la fraternité entend pratiquer, employer pour atteindre sa fin. Vous le savez, vous entrez dans une fraternité sacerdotale. Sacerdotale. La fraternité Saint-Pédis est essentiellement sacerdotale. Sans doute, nous avons la joie d'avoir avec nous quelques chers frères qui ont fait leur profession religieuse et qui nous aident dans notre apostolat. Mais la fraternité est essentiellement sacerdotale. Et c'est là, je dirais, à la fois ce qui explique et la fin de la fraternité, le but et tous ses moyens. Et il suffit pour cela de lire, bien sûr, les quelques pages de nos statuts qui expliquent d'une manière très précise ce qu'est la fin de la fraternité et quels en sont les moyens, mais tout simplement aussi de réfléchir sur la conception que l'Église catholique se fait du sacerdoce. Ce sacerdoce qui est la fin de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est le sacerdoce catholique. N'allons pas chercher ailleurs, n'allons pas chercher des définitions du sacerdoce ou de l'Église ou du sacrifice qui est essentiel au sacerdoce. Cherchons-le dans la tradition de l'Église catholique et nous saurons ce qu'est la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Mais ceci aujourd'hui, mes bien chers amis, est d'une importance capitale, d'une importance essentielle pour l'avenir de l'Église et pour le salut des âmes. Car en cela, l'Église n'a point changé. La doctrine de l'Église ne peut pas changer. Elle ne peut pas. Même si, hélas, aujourd'hui, et particulièrement depuis le Concile Vatican II, De nombreuses idées ont été émises à ce sujet, et il faut bien le dire, encore dernièrement, dans le dernier synode. Mais tout cela ne change pas la vérité éternelle de l'Église au sujet du sacerdoce. Car cette vérité ne dépend pas de l'Église, elle dépend de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui, prêtre, a voulu transmettre son sacerdoce et non point un autre sacerdoce, a voulu transmettre son sacrifice et non pas un sacrifice quelconque, et il a institué l'Église sur sa croix pour lui confier ce trésor extraordinaire de son sacerdoce et de son sacrifice. Toute l'Église n'a de sens et de signification que par cette volonté de notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, pour le salut des âmes, pour notre rédemption. Oui, mes bien chers amis, vous vous destinez à être prêtre. Et si la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, ce n'est pas une société religieuse, puisque, comme il est dit dans vos statuts, la société de Saint-Pie-X est une société de vie commune sans vœux, comme il y en a un certain nombre dans l'Église. Société de vie commune sans vœux. Pourquoi sans vœux? Bien, mes chers amis, il m'a semblé que les vœux par rapport à la fin de la société Saint-Pie-X pouvait être non pas un obstacle, mais pouvait mettre assez fréquemment les membres de la fraternité dans une situation, disons, d'éloignement des vœux ou de désobéissance aux vœux, en particulier dans l'application du vœu de pauvreté. Vous avez et vous aurez dans vos fonctions à remplir, dans les prieurés, dans toutes quelques fonctions qu'on pourrait vous donner dans la fraternité, vous aurez à disposer de quelques biens, de quelques moyens. Et pour un religieux, le religieux doit être entièrement soumis pour la pauvreté à son supérieur. Il ne peut rien avoir à lui-même, il ne peut disposer d'aucun bien, d'aucun objet matériel. Est-ce que cela veut dire que parce que vous n'êtes pas religieux, vous êtes donc plus libre de pratiquer la vertu de pauvreté, de pratiquer la vertu de chasteté, de pratiquer la vertu d'obéissance? Mes bien chers amis, je vous en supplie, ne tombez pas dans ce travers, ne tombez pas dans cette erreur. Là encore, je vous ramène au sacerdoce, je vous ramène au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourrez-vous dire devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ que celui que vous allez porter dans vos mains à l'autel et pour lesquels vous prononcerez les paroles de la consécration, de la transubstantiation, notre Seigneur Jésus-Christ sera présent de vous tous les jours? Dites-moi si celui que vous devez imiter n'a pas pratiqué les vertus d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Usquam mortem, mortem motem crucis. Direz-vous que Jésus n'a pas été obéissant et que par conséquent vous ne devez pas l'imiter, vous, prêtre du Seigneur, qui renouvelez le sacrifice de la croix sur les autels? Direz-vous que Jésus n'est pas pauvre, n'a pas pratiqué la vertu de pauvreté sur sa croix? Que lui reste-t-il? Il a même donné sa mère à Saint Jean. Jésus meurt dans le plus complet abandon. N'a-t-il pas pratiqué la vertu de chasteté? Lui dont le corps est lacéré, le corps virginal est lacéré par la flagellation. Oui, il a pratiqué la vertu de chasteté. Il s'est entouré de vierges. Sa mère était vierge, son père était vierge, Saint Jean était vierge. Ce sont les âmes qui l'ont vraiment entouré de plus près. Alors Jésus a pratiqué la vertu de chasteté. Alors vous, prêtre, osez-vous dire que parce que vous n'êtes pas religieux, vous pouvez donc en prendre à votre aise avec ces vertus? Je vous en supplie. Suivons notre maître. Soyons au contraire aujourd'hui dans ce monde de perdition, dans ce monde désordonné, des exemples de ces vertus d'obéissance, de pauvreté, de chasteté. Voilà ce que doit être votre idéal comme membre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et puis, vous méditerez sur le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas rien, ce sacrifice. La croix de Jésus domine l'histoire de l'humanité, domine l'histoire du monde. Stat crux dum volvitur orbis. La croix demeure, la croix est immuable devant les vicissitudes du monde. Plus vous approcherez de la croix, plus vous serez des croisés, plus vous serez des crucifiés, plus vous partagerez aussi l'immutabilité divine, l'immutabilité de l'éternité. Fixé à la croix pour toujours, vous ne changerez plus, vous ne changerez pas. Le sacrifice et le prêtre sont des notions qui ont une relation non pas accidentelle, mais comme vous dites en philosophe que vous êtes, une relation transcendantale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas définir le sacrifice sans le prêtre et qu'on ne peut pas définir le prêtre sans le sacrifice. Ils sont essentiellement liés. Le prêtre est fait pour le sacrifice. Il ne peut pas y avoir de sacrifice sans le prêtre. C'est pourquoi vous devez réfléchir à ce qu'est le sacrifice pour savoir exactement ce qu'est le prêtre, ce que vous êtes. Or, ce sacrifice est une chose mystérieuse, profonde, divine. C'est un trésor que vous pouvez méditer pendant toute votre vie sacerdotale et qui ne sera pas encore épuisé. Au moment de votre mort, nous ne le comprendrons bien que dans l'au-delà, ce qu'est ce sacrifice de notre Seigneur et ce sacrifice que nous relevons tous les jours à l'autel. Or, voyez-vous, il est une chose très importante à bien comprendre. On nous dit parfois, bon, vos séminaires ont un aspect négatif. Vous êtes contre. Vous êtes des gens contre. Vous êtes anti-libéraux. Vous êtes anti-œcuménistes. Vous êtes anti-communistes. Vous êtes des anti. Eh bien, chers amis, nous ne sommes pas des anti pour être anti. Nous sommes anti parce que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est anti. Anti-libéral, anti-œcuméniste, anti-communiste. Pourquoi? Parce que par la croix, Jésus-Christ a rétabli l'ordre. L'ordre vers Dieu, l'ordre vers le prochain. Il a rétabli l'ordre. Et que toutes ces erreurs sont des erreurs subversives de l'ordre, qui détruisent l'ordre. Le libéralisme détruit la liberté. Le communisme détruit l'ordre à Dieu et même l'ordre naturel. L'œcuménisme détruit le premier commandement de Dieu, qui appliquer l'ordre à Dieu. Par conséquent, notre sacrifice, le sacrifice de la croix que nous vénérons, que nous adorons, que nous réalisons tous les jours, nous apprend cela, nous apprend à rétablir l'ordre et à nous mettre dans la paix. Car la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. L'ordre chrétien, l'ordre de la croix, c'est l'ordre qu'a poursuivi l'Église pendant toute son histoire. Et vous serez les héritiers de l'Église en recherchant cet ordre, en le poursuivant d'abord en vous, comme je viens de vous l'expliquer, par les vertus que vous vous appliquerez, vous rétablirez l'ordre vis-à-vis de Dieu. Et puis vous vous efforcerez aussi de rétablir l'ordre dans les âmes des fidèles, en leur donnant Jésus crucifié dans la Sainte Eucharistie, afin de rétablir l'ordre dans les âmes et dans les familles. Vous rétablirez l'ordre dans les familles, vous rétablirez l'ordre aussi dans la société, afin que Jésus soit le roi du monde qu'il doit être, et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et non pas seulement au ciel. Voilà, mes chers amis, ce qu'est la fraternité sacerdotale. N'allez pas chercher des spiritualités particulières, spéciales. La spiritualité de la fraternité, c'est la spiritualité du sacrifice de la croix, qui est la spiritualité de l'Église, tout simplement. Regardez tous les saints, ils portent la croix. On les représente presque toujours, la croix dans les mains. Regardez Saint Pie V, il a la croix dans les mains. Pourquoi ? Parce que pour eux, la croix, c'est le centre de leur vie. Ils l'ont plantée dans leur cœur. Et ils veulent imiter toutes les vertus de la croix et les recevoir toutes les vertus de la croix. Alors c'est un grand privilège que vous avez d'être prêtre. Et par le fait même que vous êtes prêtre, mes amis, vous aurez un pouvoir sur le corps physique de notre Seigneur, mais aussi sur son corps mystique. Et c'est précisément ce qui va vous distinguer des laïcs. On ne veut plus aujourd'hui faire des distinctions entre le prêtre et le laïc. Si vous serez distinct des laïcs par votre sacerdoce. Et les vrais fidèles désirent que les prêtres soient des prêtres, c'est-à-dire que les prêtres soient des pères qui leur donnent leur nourriture, nourriture intellectuelle, spirituelle, morale, et la Sainte Eucharistie, le sacrement, la sanctification, c'est votre rôle. Prédicare, sanctificare. Redigere, voilà ce qu'est le prêtre vis-à-vis du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est votre rôle. Et il y a l'Ecclesia d'Otchens et l'Ecclesia d'Ischens. Il y a l'Église qui enseigne et l'Église qui écoute. C'est ça qu'a toujours enseigné l'Église. Et c'est ça qui fait la beauté, la grandeur de l'Église. Soyez cela, mes chers amis, et vous rendrez gloire au bon Dieu, et vous servirez l'Église, et vous servirez les âmes. Demandez cette intelligence du sacrifice de la messe, demandez l'intelligence sacerdoce à la très sainte Vierge Marie. Elle est la mère du prêtre, elle a formé dans son sein le prêtre éternel. Entrez dans le sein de Marie, oui, avec Jésus, pour que Marie vous forme. Qu'elle forme en vous le vrai prêtre de l'Église, le prêtre attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre à la fois contemplatif des grandes vérités, contemplatif de Dieu et en même temps grand missionnaire, désireux de porter la bonne nouvelle, désireux de porter notre Seigneur Jésus-Christ au monde. Voilà ce que vous serez. Si vous écoutez la Vierge Marie et que vous êtes ses fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, et bien chers frères, Odie ecressa est virga de radice Jesse. Odie sine ulla peccati lave, Concepta est Virgo Maria. Odie contritum est ab ea caput serpentis antiqui. Alléluia. Avec ces paroles, dans l'antienne de Vêpres, la Sainte Église salue aujourd'hui la très sainte Vierge et décrit sa beauté, sa sainteté personnelle et son rôle dans l'histoire du salut. Oui, aujourd'hui, une tige est sortie de la racine de Jessé. Aujourd'hui, la Vierge Marie est conçue sans aucune tache de péché. Aujourd'hui, elle a écrasé la tête de l'antique serpent. Considérons, mes chers frères, à cette magnifique fête de l'Immaculée Conception. Tout d'abord, les privilèges que le bon Dieu a donnés à la très sainte Vierge elle-même. Il y a dans l'Immaculée Conception deux privilèges inclus qui lui sont accordés en fonction de sa maternité divine, qui est le premier privilège que le bon Dieu lui a accordé, le rôle qu'elle devrait remplir dans l'histoire du salut. Elle devrait devenir la mère du Sauveur. Elle devrait être la mère de Dieu. Elle devrait concevoir dans son sein Dieu, son propre Créateur et son propre Rédempteur. Et alors, elle devrait être la mère digne dans tel enfant, dans la mesure où une créature peut être digne de son Créateur. Et donc, le bon Dieu l'a voulu préserver de toute tâche, de tout péché, dès l'instant de sa conception. Il a voulu, et c'est un deuxième privilège, la combler de toute sainteté, de toutes les bénédictions, de toutes les grâces qu'une créature puisse concevoir. Et donc, la très sainte Vierge Marie nous apparaît dans un jour de son Immaculée Conception comme le temple de Dieu vivant, comme le sanctuaire de notre Seigneur, comme son royaume privilégié. Elle est sainte, mes chers amis, comme dit Saint Pie dans sa magnifique prière adressée à l'Immaculée Conception. Elle est sainte dans son corps. Elle est sainte dans son âme. Elle est sainte dans sa foi. Elle est sainte dans son amour. Et donc, toutes ses pensées sont dirigées vers Dieu, vers notre Seigneur Jésus-Christ. Tout son esprit est ouvert pour la révélation de Dieu. Tout est orienté vers le Très-Haut. Sa volonté est soumise à sa loi, à ses desseins, au plan de Dieu, à sa sainte volonté. Et son cœur est rempli de l'amour pour la beauté incréée de Dieu. Oui, dans l'âme de notre Seigneur, de la très sainte Vierge, cette âme si pure, si sainte, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui y vit, qui y agit, qui y règne, en elle et à travers d'elle. Et ensuite, la très sainte Vierge, pas seulement préservée de toute tâche, originelle et de la tâche originelle et de tout péché personnel. Mais la très sainte Vierge, mes chers amis, encore remplie de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, c'est vraiment en elle que nous trouvons réaliser pleinement, parfaitement, les sept dons du Saint-Esprit. C'est en elle que nous voyons les fruits du Saint-Esprit, caritas, Gaudium, Pax, Patientia. C'est en elle que nous trouvons les béatitudes. elle est pauvre en esprit, pauvre de moyens humains pour être riche en Dieu. La très sainte Vierge est ainsi devenue l'épouse immaculée du Verbe incarné. À l'origine du genre humain, Dieu pose un couple, Adam et Ève, qui ont entraîné avec eux dans les ruines tout le genre humain. Et quand Dieu a décidé de restaurer le genre humain, il a de nouveau commencé cette œuvre par un homme, notre Seigneur Jésus-Christ, et une femme qui est lui mise à côté, qui est sa collaboratrice dans cette œuvre de la rédemption, de la restauration, c'est la Très Sainte Vierge. Et c'est ainsi que la Très Sainte Vierge est donc épouse immaculée du Verbe incarné, qu'elle est mère des âmes, mère de notre Seigneur tout d'abord, mère des âmes, et elle est reine. Puisqu'elle a mérité de congruo, dans le sens large, toutes les grâces avec notre Seigneur. Elle est vraiment la co-rédemptrice. Et c'est ainsi qu'elle distribue également toutes ses grâces, qu'elle dispose des trésors de Dieu et qu'elle les distribue selon le plan de Dieu et selon sa bon plaisir. C'est ainsi que la Très Sainte Vierge, Vierge, Mère et Reine, est vraiment le prototype de la Sainte Église, de la Sainte Église, épouse immaculée de notre Seigneur, de la Sainte Église dans sa sainteté, de la Sainte Église en tant que Mère des âmes et Reine dans le royaume de Dieu. Eh bien, mes chers amis, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons comment ce royaume de Dieu, comment cette Église est maltraitée depuis maintenant juste 30 ans, depuis ce malheureux concile du Vatican. Et nous voyons, n'est-ce pas, comment chaque année, on s'enfonce dans les mal. Il est tout à fait curieux de voir comment des étapes décisives toujours sont un peu en liaison, comme un contre-pôle, je dirais, avec la Très Sainte Vierge. C'est le 7 décembre 1965, n'est-ce pas, où il y a la déclaration sur la liberté religieuse. Le 7 décembre 1965. Il y a pour le premier dimanche de l'Avent, donc tout proche de la fête de l'Immaculée Conception, 1969, l'introduction du nouveau rite, du nouveau culte dans la liturgie. Il y a pour le premier Avent de nouveau de l'année 1983, l'introduction du nouveau trois canons, qui n'est rien d'autre que la transcription juridique de l'esprit conciliaire, qui est un esprit adultère avec le monde. Et maintenant, cette année, juste ces jours-là, donc tout proche de nouveau de la fête de la Très Sainte Vierge, dans son Immaculée Conception, il y a la publication du nouveau catéchisme, qui de nouveau contient toute la doctrine du concile avec ses nouveautés, avec ses erreurs, avec ses déviations de la saine doctrine, pour être mis à la disposition des fidèles et les corrompre dans l'intégrité et l'intégralité de leur foi. Or, mes chers amis, je pense, nous devons à haute voix protester contre de telles choses. Et nous devons considérer que la Très Sainte Vierge est annoncée par l'Église comme celle, par Dieu lui-même, n'est-ce pas, dans les proto-évangiles, comme celle qui écrase la tête du serpent. Et c'est par la très sainte Vierge que la chrétienté et l'Église va remporter la victoire sur toutes ces erreurs, sur tous ces monstres. Or, je pense, on peut les résumer, ces monstres, n'est-ce pas, dans quelques principes. Tout d'abord, on proclame dans tous ces documents l'autonomie de l'homme. L'autonomie de l'homme. C'est déclaré dans la déclaration sur la liberté religieuse. L'homme a un droit à la liberté religieuse. Eh bien, l'homme n'a pas un droit, n'est-ce pas, à la liberté religieuse, mais l'homme a un devoir grave d'accepter la vraie religion, et aussi l'État doit protéger, favoriser la vraie religion et proscrire les fausses religions. L'autonomie de l'homme. Dans la réponse que le Vatican nous a donnée, n'est-ce pas, à nos dubias concernant, n'est-ce pas, la liberté religieuse, on nous dit que l'homme doit disposer d'un espace autonome. Eh bien, nous disons non. Il n'y a aucun espace autonome pour l'homme. Ni dans sa vie privée, ni dans la vie publique. Tout est soumis à Dieu. Et c'est la très sainte Vierge, n'est-ce pas, qui est l'exemple, qui est le modèle, qui est l'image parfaite de cette soumission à Dieu, soumission absolue dans tous les domaines. Il n'y a rien qui est un exemple à cela. Rien, absolument rien. L'autonomie de l'homme. Alors, ensuite, deuxième erreur, n'est-ce pas, c'est l'erreur du subjectivisme et relativisme. On ne veut plus de l'unicité de l'homme et de l'absoluité de l'homme. Le cardinal Ratzinger, dans son interview qu'il a donnée au journal Le Monde, à la date du 17 novembre, dit que dès maintenant, l'Église ne doit que apporter une contribution au monde. Et que l'Église et la démocratie libérale doivent se fertiliser mutuellement. Invraisemblable. Inimaginable. Mais c'est tout là, n'est-ce pas, l'esprit relativiste. On ne veut plus connaître, n'est-ce pas, l'absoluité de Dieu. Quis ou Deus. C'est ça, n'est-ce pas, la question qui nous vient à la tête, cette proclamation de Saint-Michel. Quis ou Deus. Est-ce que Dieu est Dieu ou n'est pas Dieu? Toute la question est là. Eh bien, nous confessons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est maître absolu. Et tout lui est soumis. Et nous le confessons dans les credos. Credo in unum Deum Patrem Omnipotentem. Est tout puissant. Et rien lui échappe. Alors, cet esprit relativiste, subjectiviste, s'inscrit dans une dialectique. Et c'est la dialectique de Hegel. C'est pas. Donc, des ennemis de l'Église. Alors, on veut, c'est pas, justement, réconcilier la vérité avec l'erreur. Et on dit que la vérité a besoin de l'erreur. Comme si les bons dieux auraient besoin de Satan. Chose insensée. Insensé. Mes chers amis, la lumière brille par elle-même. Elle éclaire par elle-même. Et on n'a pas besoin des ténèbres, n'est-ce pas, et de l'ombre pour s'apercevoir la lumière. La bonté rayonne par elle-même. Elle est absolue. C'est la charité, n'est-ce pas, elle rayonne. Et elle est reconnaissable. En elle-même, on n'a pas besoin de voir la haine pour comprendre la charité. Peut-être psychologiquement, peut-être pédagogiquement, l'une ou l'autre fois, ça sert. Et le bon Dieu, spécialement, se sert du mal, du péché, n'est-ce pas, pour faire éclater encore davantage extérieurement le rayonnement de la vérité. Mais métaphysiquement, c'est une grande erreur de penser que la vérité aurait besoin de l'erreur pour être manifeste. C'est une grande erreur. C'est une atteinte aux attributs de Dieu. C'est une atteinte à sa souveraineté, à son absolue unicité. Dieu n'a nullement besoin, n'est-ce pas, du royaume du mal. Nullement. Et d'ailleurs, on le voit, n'est-ce pas, que Dieu, longuement avec la création, toujours avec la création, il avait existé déjà. Il était parfaitement heureux dans sa béatitude. Parfaitement. Il n'a pas besoin de personne. Et spécialement, il n'a pas besoin du mal. Alors, je pense, n'est-ce pas, c'est important, n'est-ce pas, de saisir ces principes. L'autonomie de l'homme, le relativisme et subjectivisme inscrits dans ce système dialectique, diabolique, mes chers amis, parce que c'est là l'esprit de la révolution. Et ensuite, troisième principe, c'est le naturalisme et le naturalisme humaniste. Naturalisme humaniste évolutif. Alors tout d'abord, naturalisme. Vous voyez, n'est-ce pas, comment tout l'ordre surnaturel s'évanouit, est éliminé, supprimé. En faveur de quoi? En faveur des droits de l'homme. En faveur, n'est-ce pas, de la collaboration entre tous les hommes. Il suffit de lire l'article 12 d'un Gaudium et Spes, du décret conciliaire, où il est dit que les croyants et les incroyants sont en général d'accord sur cela. Le centre et la fin de toute chose sur la terre, c'est l'homme. Voilà ce que dit le concile. Eh bien, nous disons non. Le centre et la fin de toute chose sur la terre, c'est Dieu. Personne d'autre. Alors, ensuite, lisez l'article 5, où l'on nous dit, n'est-ce pas, que bien, nous passons aujourd'hui d'un ordre des choses plutôt statique à l'ordre des choses évolutives, dynamiques et évolutives. Donc, la vérité change, les principes changent, et grâce à cette erreur, n'est-ce pas, on établit une nouvelle église, des nouveaux sacrements, un nouveau culte, un nouveau sacerdoce, des nouveaux catéchismes, un nouveau trois canons, parce que les choses changent. On passe de l'ordre statique à l'ordre évolutif. Mes chers amis, nous ne pouvons pas accepter cela. Et je pense, si nous nous demandons quelle solution adopter, eh bien, je crois qu'il n'y a que trois. Trois solutions à donner et trois résolutions à prendre à la fête de cette Immaculée Conception. Tout d'abord, la proclamation de notre foi. L'absoluté de Dieu. L'absoluté de Dieu. Christ ou Deus. Deuxièmement, n'est-ce pas, le règne social de notre Seigneur sur toute la société, sans que une seule espace lui échappe. Il est vraiment le roi et le maître de toutes choses. Et remarquez qu'on ne peut pas se passer de notre Seigneur et de sa croix. On ne peut pas se passer. Ce n'est pas facultatif. Et aussi, les saluts des peuples, des nations, passent par la reconnaissance de l'incarnation rédemptrice. Où l'on connaît notre Seigneur, on adopte son ordre, sa loi, sa grâce, sa croix, et aussi dans la vie publique, où l'on n'accepte pas, alors on est séparé de lui. Et le monde, n'est-ce pas, tombe dans l'erreur. Le monde, n'est-ce pas, tombe dans la misère morale comme nous le voyons aujourd'hui. Et troisièmement, n'est-ce pas, dans cette première résolution, bien c'est l'absoluté de l'Église, de l'ordre surnaturel. On ne peut pas se sauver dans un ordre purement naturel. on se sauve dans l'ordre surnaturel ou on ne, le sauve, ne se sauve pas. C'est clair, n'est-ce pas? Comme la lumière, notre Seigneur l'a dit. C'est une parole divine, infaillible, éternelle. Celui qui ne renaît pas par l'eau et le baptême, par l'eau et le Saint-Esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Proclamation de notre foi aujourd'hui. La foi intégrale et la foi intègre. C'est là ce que nous devrons voir relié à la pureté de la très sainte Vierge, à sa sainteté. La sainteté et l'Immaculée Conception sont intimement liées à cette sainteté et au caractère immaculé de notre foi catholique. Deuxième résolution. Nous sommes une société sacerdotale, la fraternité sacerdotale Saint Pie X. Et nous devrions tous prendre aujourd'hui la résolution, d'après nos forces, de travailler pour la restauration du sacerdoce catholique. La restauration et le renouvellement dans le Saint-Esprit. Si nous voudrions restaurer les choses, répondre à la devise de Saint Pie X, Instaurare Omnia in Christo, eh bien cela se passe à travers le sacerdoce catholique, qui est le principe de l'ordre surnaturel, qui est au milieu de l'Église, qui est celui qui distribue la vie aux âmes, qui relie les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ, et à sa croix. Et alors, mes chers amis, nous devrions vraiment être cette petite armée, conjurée, je dirais, bien unie, un esprit, un cœur, dans nos intentions, dans notre travail, dans nos énergies, dans nos efforts, dans nos labeurs, aussi dans nos souffrances, bien unis, absolument fidèles, sans faillir, pour restaurer le sacerdoce catholique. Bien, toutes les grandes personnages de la Sainte Église qui ont vraiment eu cette préoccupation, ce souci de restaurer les choses dans l'Église, ont toujours travaillé pour la restauration du sacerdoce. Et ont toujours pensé comment revenir, comment retrouver la sainteté des prêtres. Bien, certainement, par la vie des communautés. Certainement par un grand désir tout d'abord. Certainement par, comme dit Saint Grignon de Montfort, une mortification universelle. Certainement par une prière constante, continuelle. Bien, nous devrions vraiment nous introduire dans cet esprit du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sûr que Dieu aujourd'hui donne des grâces particulières, je dirais presque des nouvelles grâces au genre humain, à son Église, pour son sacerdoce. Bien, puisons ces grâces. Vivons aux sources de l'eau vie. Remplissons-nous de l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre et victime. C'est tellement important, voyez. Je dirais, n'est-ce pas, et c'est aucune exagération, que le salut du monde y dépend, en dépend, n'est-ce pas, de cette restauration du sacerdoce. Et nous devrions nous préparer, après que nous avons réalisé, tant que c'est possible, en nous-mêmes, ce programme de la restauration du sacerdoce, après que nous sommes nous-mêmes de vrais prêtres, des saints prêtres, eh bien, nous devrions ensuite essayer de travailler pour les sacerdoces en convertissant les prêtres qui aujourd'hui se trouvent dispersés dans l'erreur, exposés à tous les dangers, parseminés, n'est-ce pas, dans ce paysage conciliaire. Nous devrons les aider. Nous devrons être des frères pour eux, les ramener, n'est-ce pas, à leur vrai sacerdoce, comme notre Seigneur l'a voulu. C'est la deuxième grande intention, n'est-ce pas, de ce jour, je pense. Et ce n'est pas par hasard que Mgr Lefebvre voulait que les engagements dans la fraternité se fassent ce jour du 8 décembre, sous l'égide, sous l'image, sous la lumière de l'Immaculée Conception. Eh bien, voyons notre sacerdoce dans la lumière de l'Immaculée Conception. Soyons des prêtres éloignés du péché, remplis de la grâce, remplis de l'ordre surnaturel des sept dons du Saint-Esprit, des fruits du Saint-Esprit et des béatitudes. Soyons des prêtres à l'image de l'Immaculée Conception. Soyons, troisièmement, vraiment les fils, les servants de la Très-Sainte Vierge. On ne peut que restaurer les choses en dehors de la Très-Sainte Vierge. C'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas les restaurer. Bien, travaillons comme des instruments, offrons-nous à la Très Sainte Vierge. Qu'elle soit notre, je dirais, notre général dans cette bataille décisive pour Dieu, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour ses privilèges. Qu'elle nous aide, qu'elle soit à notre côté, qu'elle vraiment nous dirige dans nos pensées, dans nos actions, qu'elle dirige tout. Et travaillons que pour la Très Sainte Vierge. Et travaillant pour elle, nous travaillons pour notre Seigneur, nous travaillons pour Dieu dans sa Sainte Trinité. Voilà, je pense, n'est-ce pas, les résolutions et les intentions que nous devrions avoir aujourd'hui. Et puisque il est dit dans l'épître de ce jour, Dominus possedit me in initio viarum suarum, le Seigneur m'a possédé dès le début de ce chemin, ante constitutione mundi, avant qu'il y ait eu la création, j'étais déjà conçu dans les pensées de Dieu. Eh bien, nous sommes tout à fait convaincus que aussi notre petite congrégation, cette petite armée des répartisseurs d'aujourd'hui, des prêtres qui veulent être des prêtres selon l'exemple et l'enseignement de notre Seigneur, aussi cette petite armée est conçue dans les pensées de Dieu. Et nous devrions implorer l'aide du Seigneur, de Dieu, sur nous. Memento congregationis tua domine quam possedisti ab initio. Pensez, Seigneur, n'est-ce pas, à cette congrégation que vous avez possédée dans votre plan éternel depuis toujours. Que la Très Sainte Vierge, mes chers amis, vous guide maintenant au renouvellement de votre oblation, de votre engagement. Qu'elle vous protège, qu'elle vous guide, qu'elle vous sanctifie, qu'elle vous fasse de vous des prêtres comme notre Seigneur le veut, selon notre Seigneur prêtre et victime. C'est ça notre désir le plus grand. Et nous sommes sûrs que ainsi, l'Église va retrouver sa vraie identité, sa vraie splendeur, dans un sacerdoce joyeux, courageux, viril, actif, travaillant pour notre Seigneur, tout offert à son service, dans un sacerdoce vraiment digne de l'Église et comme l'Église l'a formé à travers de tous les siècles. Après tous les siècles. Et nous sommes sûrs que nous ainsi nous rendrions le plus grand service au pape, à Rome et finalement à nos propres âmes, que ainsi nous sanctifierons et nous obtenirons notre salut éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.